Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Il est urgent que l'État assume ses responsabilités sous peine de compromettre durablement l'avenir de la jeunesse et de la société tout entière. C'est avec ces mots que France Université a alerté le 28 octobre dernier sur la situation précaire des universités publiques. Le réseau universitaire pointe en particulier la charge financière qui pèse sur les facs à chaque décision prise par l'État, qui pourtant s'est désengagé de la responsabilité budgétaire de ces établissements avec la loi relative aux libertés et responsabilités des universités de 2007. Presque 20 ans après l'adoption de cette loi et 13 ans après sa mise en application, près de 100% des universités ont voté un budget initial déficitaire, contre 80% encore en 2025. France Université parle d'un sous-financement structurel et la présidente de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Christine Nault-Leduc, a appelé le 10 mars dernier à une mobilisation devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace pour dénoncer cette précarisation au détriment des étudiantes et étudiants. Dans cet épisode d'Univox proposé par Radio Campus Paris, nous revenons sur cette situation de détresse des universités publiques avec Simon Elien, président de l'Association Générale des Étudiants de Paris, ou AGEP. Une interview diffusée le 15 janvier 2026 dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, que nous vous proposons ici en intégralité. Vous écoutez Univox sur vos Radio Campus.
Univox.
Bonsoir Simon Elien, et bonsoir à toutes et à tous. Donc tu es, comme on l'a dit, président de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiantes et des Étudiants de Paris. Et on va parler du coup pendant cette interview, un peu en deux parties, du financement des universités publiques françaises, de la situation difficile qu'elles traversent aujourd'hui, et des assises du financement des universités qui se déroulent pendant ce premier trimestre 2026. Simon, merci d'être avec nous.
Avec plaisir, bonsoir.
Est-ce que tu peux rapidement présenter du coup l'AGEP, ce que c'est, ce que vous faites, vos actions?
L'AGEP, l'Association Générale des Étudiants et Étudiantes de Paris, c'est une fédération étudiante. On représente 45 assos étudiants, donc des BDE dans des filières, des assos thématiques sur la solidarité, sur la transition écologique, et 150 élus étudiants. On est à partisans et notre but, c'est d'articuler du projet concret pour les étudiants comme une épicerie sociale solidaire qui s'appelle l'Agorae, et du plaidoyer pour défendre à court terme et à long terme, on espère, les conditions de vie et l'étude des jeunes.
C'est un vaste programme. Et donc du coup, on va commencer un peu dans le dur du sujet. Je vais me permettre de commencer par une citation de Christine Nault-Leduc, qui est la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui nous dit « Il y a 2 ans, j'avais dit à l'université, on est à l'os et on a attaqué l'os. Quand la moelle est atteinte, c'est terminé. C'est un vrai cri d'alarme. » Et ça, elle n'est pas la seule à l'avoir dit. Pendant tout le dernier semestre 2025, de nombreux présidentes et présidentes d'universités se sont levés pour dire la situation critique à laquelle font face les universités publiques aujourd'hui. Et à l'AGEP, donc du coup ton association, vous avez publié un communiqué le 17 décembre qui pointe ces déficits importants dans les universités parisiennes, notamment la Sorbonne Université a voté un budget déficitaire de 25 millions d'euros, Paris Cité a voté un budget déficitaire aussi de 9 millions d'euros, et il y a plein de difficultés comme ça. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer la situation économique très compliquée des universités publiques en France aujourd'hui?
Alors on a un problème qui est structurelle et qui est nationale et qui explique qu'on a une très grande majorité d'universités qui sont en situation budgétaire grave. Et depuis plusieurs années, c'est que l'État qui finance toujours la mission de service public que sont l'enseignement supérieur investit de moins en moins proportionnellement aux dépenses totales de l'université, et donc ce qu'on appelle la subvention pour charge de service public, la grosse enveloppe budgétaire qu'amène l'État sur la table, ne finance plus l'intégralité des besoins de fonctionnement en propre d'une université, et donc l'université a moins d'argent pour fonctionner tout simplement.
Et donc du coup ce financement-là, en tout cas ces problèmes économiques, ils s'expliquent d'un côté par à la fois les augmentations très importantes des coûts fixes, notamment pour les universités. On a vu avec l'explosion des coûts énergétiques, par exemple, ça avait joué un très grand rôle. Il y avait aussi les coûts des matériels, notamment pour les labos scientifiques, notamment CY Université et ses 26 000 étudiants qui nous disent que ça a augmenté de 30% au niveau des tarifs. Et les universités essayent de faire des efforts budgétaires par rapport à tout ça, notamment avec des exemples d'augmentation de frais de scolarité par rapport aux étudiants étrangers, etc. Malgré ça, ça ne marche pas. comment est-ce que tu analyses du coup cette situation où le gouvernement se désengage? Pourquoi est-ce qu'il se désengage par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'il finance moins? Ou alors est-ce qu'il finance plus mais les coûts augmentent plus que ce qu'il ne finance?
Alors il y a déjà un changement dans le financement que l'État fait des universités. Il estime financer toujours autant les universités, mais il y a des modes de financement différents. Cette enveloppe qu'on appelait la subvention en charge de service public est maintenant complétée par un appel à projet et des sommes, des enveloppes budgétaires qui sont compétitives entre différentes universités. Donc la nature du financement a changé et favorise plutôt les gros poissons que les petites universités, et c'est un problème. Et pour revenir sur les conséquences dont vous parliez et les résolutions données par les universités, ces solutions d'urgence qui en fait sont défavorables aux étudiants, contre lesquels on s'oppose de façon unanime, les corps enseignants aussi. Par exemple, ce qui a été fait à l'université Panthéon-Sorbonne de rétablissement des frais différenciés qui sont permis depuis 2018 en France par un plan qui s'appelle le plan Bienvenue en France, c'est concrètement faire en sorte que les étudiants extra-communautaires payent 16 fois plus cher leur diplôme de licence,
oui, avec
master,
des,
doctorat.
Des tarifs qui peuvent monter à 3 500, je crois, à l'année, c'est ça, quelque chose comme ça.
Hein. Oui, c'est ça, donc 3 941 € pour un master. Et donc c'est tout simplement une rupture d'un des principes de l'universalité de l'université. C'est compris dans le mot même. Un étudiant extra-communautaire n'a plus les mêmes chances d'accéder à des études en France qu'un autre.
D'accord. Et j'aimerais justement revenir sur ce point-là que je trouve très intéressant, sur le fait que les modalités de financement du gouvernement ont changé. C'est-à-dire qu'avant, ils donnaient, on va dire, une enveloppe générale à toutes les universités, peu importe un peu les projets. Et donc, du coup, comme on peut le retrouver d'ailleurs dans plein de dynamiques de subventions publiques, plutôt que d'allouer des subventions en faisant confiance, entre guillemets, à des projets, on va glisser ça en faisant de plus en plus de subventions aux appels à projets, en mettant les acteurs un peu en concurrence. Et donc ça, c'est une logique qui s'applique aussi aux universités depuis de nombreuses années.
Alors tout à fait, il a toujours existé cette subvention en charge de service public, elle repose sur une contractualisation entre l'État et une université qui a toujours existé sur 5 ans, ce qu'on appelle un contrat quinquennal, et qui permettait justement de financer à minima les frais de fonctionnement d'une université. On a rajouté deux types de financement, donc les appels à projets, et c'est très simple de comprendre qu'un appel à projet, c'est une somme d'argent finie qui ne peut pas satisfaire tous les acteurs universitaires sur une table, et donc il y aura forcément des lésés. Mais on a aussi commencé à changer la subvention en charge de service public, donc l'enveloppe même de base, par ce qu'on appelle des COMP, donc des contrats objectifs moyens performants, et qui cette fois conditionne l'octroi de subventions par l'État par des indicateurs de performance. Et donc on a rendu l'enseignement supérieur dans une logique de performance et de rentabilité en quelque sorte, et c'est vraiment inquiétant.
D'accord, et c'est quoi ces indicateurs de performance? C'est par exemple le nombre d'étudiants qui trouvent un emploi après l'université? C'est, comment ça se définit du coup ces indicateurs de performance?
Ça peut complètement être des indicateurs de performance sur l'orientation, sur la réussite, sur la qualité de la vie étudiante qui sera proposée, sur l'offre de formation qui sera proposée. Ça peut être très large. Une chose est sûre, c'est que ça donne aussi à l'État le moyen de faire infuser ses propres politiques publiques et son idéologie publique dans les universités. Et donc c'est aussi une rupture du principe historique et universel, l'autonomie des universités, de la façon dont elle gère son budget et ses priorités pédagogiques.
Ah oui, d'accord. Donc on retrouve ça, oui, dans plein de manières dont l'État notamment s'est approprié le budget de la sécurité sociale, par exemple, qui était un budget qui était vraiment à part et qui était géré par un peu en autonomie. Et donc là, du coup, l'État se sert, selon ton point de vue, se sert du coup de ses subventions pour influencer un peu sa politique vis-à-vis de l'enseignement, et comme on peut le voir, une politique qui est plutôt néolibérale ou en tout cas depuis de nombreuses années. C'est un peu ça que tu analyses, quoi.
Totalement. Et ça entraîne des conséquences pour les filières moins rentables ou qui permettent moins de s'insérer dans le monde socioprofessionnel, et on sent que ces politiques, elles traduisent souvent des baisses de capacité massives dans les filières de LSHS, donc tout ce qui sera lettres, sciences humaines, société, littérature, et donc ça traduit aussi une logique et une envie de rentabilité sur les formations qu'on propose aux étudiants.
On aura l'occasion de revenir en deuxième partie d'interview sur ces deux visions, on va dire, de l'enseignement public qui se font face, mais du coup, pour revenir un peu sur ces problèmes budgétaires auxquels font face les universités publiques, quel est, selon toi, l'impact réel de cette situation économique difficile sur les étudiantes, sur les étudiants, sur leur formation au quotidien, toi qui les accompagnes tous les jours?
Alors ça, il y a plein de conséquences possibles, on peut en décliner quelques-unes. La plus grave, ça reste une fermeture des places. À titre d'exemple, c'est un exemple qui est très simple à comprendre et qui est vraiment grave à Paris. L'année dernière, on a fermé un quart des places dans l'école de psychométricité de la Sorbonne Université. Cette école, c'est la seule école publique de psychométricité d'Île-de-France, et donc sinon c'est 11 000 euros l'année. Donc c'était la seule alternative à 11 000 euros une année scolaire, c'est immense pour tout étudiant. Et cette fermeture, elle n'intervient pas par choix libre de l'université, mais par contrainte budgétaire, parce que la région, donc l'État directement, ne payait pas ce qu'il devait en termes de coût de formation à l'université depuis plus de 10 ans. Et donc, après 10 ans où l'université a pris à sa charge cette compensation, elle a été obligée de fermer 25% des places pour espérer faire passer un message d'alerte au ministère et aux collectivités publiques. Mais voilà, donc ça peut être vraiment la conséquence la plus grave. Une fermeture de places dans un secteur autant en tension est très compliquée. concurrencée par le privé qui de fait profite aussi de cet investissement dans l'enseignement supérieur public. On aura aussi une dégradation nette des conditions d'enseignement. Par exemple, quand il n'y a pas de budget, on ne peut pas recruter de nouveaux maîtres de conférences et donc on engage les athers.
Il y a cette notion-là, notamment sur la différence entre les contractuels et on va dire un peu les titulaires, c'est-à-dire que de plus en plus d'universités sont poussées à embaucher des personnes sur des contrats un peu plus courts qui vont intervenir que pendant certaines périodes pendant l'année. Et ce que disait notamment Gilles Roussel, le président de l'université Gustave Eiffel, il disait que si on diminue la proportion de permanents, c'est indolore pour le mouvement, pour le moment, pour l'étudiant, mais on va recruter des vacataires en plus. Seulement eux, ils n'assurent plus la cohérence du système et ne coordonnent pas. Donc du coup, en fait, on a une baisse de qualité globale sur du coup les enseignements. Est-ce que tu partages cette vision ?
On peut complètement partager cette vision et aussi mettre à la place des athers en eux-mêmes, qui sont des post-doctorants, donc des étudiants qui ont connu des conditions précaires sur le doctorat, parce que c'est le cas en France aujourd'hui, et qui connaissent d'autant plus des conditions précaires en sortie en post-doctorat et qui n'ont pas la chance de pouvoir être recrutés en maître de conférence. Donc c'est à la fois une baisse de la qualité de l'offre de formation, c'est une baisse de l'attrait de la recherche en général, parce qu'on ne peut pas être financé à la hauteur de la recherche qu'on veut produire, et c'est une baisse de conditions de vie et de santé mentale aussi pour ces athers.
Oui, bien sûr. Donc il y a de nombreuses conséquences en tout cas par rapport à ces difficultés économiques que rencontrent les universités publiques aujourd'hui. Et est-ce que dans ce contexte où les universités publiques sont autant en difficulté, d'autres établissements avec d'autres modèles économiques s'en sortent mieux ? Tu as évoqué un petit peu le modèle privé. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots là-dessus ?
Alors ce qui est inquiétant, c'est que l'enseignement public, lui, est de moins en moins compétitif parce que de moins en moins d'armes financières et budgétaires pour pouvoir répondre à l'évolution des formations et à la rénovation des campus et des lieux de vie, parce que c'est un sujet qui est vite atteint. Par exemple, on repousse d'énormes projets immobiliers à Paris du fait des déficits budgétaires publics. À l'inverse, les établissements privés, eux, peuvent être attractifs pour une catégorie de la population qui peut se le permettre, avec des écoles à 16, 17 000 euros, dans une logique de rentabilité qui est pleinement assumée.
Ah oui, donc du coup, il y a vraiment une espèce de combat entre ces deux différentes visions, dont on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Et du coup, cette vision-là, c'est-à-dire qu'on a du coup un déficit, et donc ceux qui rapportent par rapport à ça, ça va être des personnes qui vont plus remplir les critères justement de l'État. Par exemple, les écoles privées vont plus rentrer un peu dans ces critères-là que définit l'État par rapport à l'octroi de subventions publiques, où ils rentrent plus dans un marché de l'emploi, du travail, dans le marché du savoir, c'est un peu ça ?
Pas nécessairement, parce que les établissements publics et les établissements privés ne sont pas du tout soumis pour l'instant aux mêmes critères d'évaluation. Par exemple, il y a plein de critères qu'on prend fort heureusement en compte dans l'évaluation par la HCRS d'un établissement public, comme par exemple la démocratie étudiante, tout bêtement le nombre de faits d'avoir d'enfants d'étudiants. Les établissements privés, quand ils sont évalués, pour l'instant, ne sont pas évalués sur ce critère-là. Et donc, c'est un exemple très concret pour les étudiants qui peuvent écouter, mais c'est le cas pour plein d'autres critères. Et donc, forcément, les établissements privés ne cherchent pas à avoir autant de subventions publiques parce qu'ils reposent aussi sur un modèle de fonds propres et de frais d'inscription. Mais peuvent aussi en toucher par différentes aides et donc sont moins impactés aussi par cette situation budgétaire.
Ouais, d'accord. Donc c'est une situation qui est clairement difficile. On pense notamment à l'Université de Lille qui a annoncé un déficit de 45 millions d'euros en prenant un peu sur les fonds propres. Donc c'est une situation qui est vraiment très complexe pour les universités et on abordera du coup d'autres sujets sur cette thématique en deuxième partie d'émission.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and take you down deep where it's
Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On est toujours avec Simon Hélien du coup pour ce financement. En première partie d'émission, on avait parlé des difficultés financières que rencontraient les universités publiques. Et du coup, en deuxième partie de cette interview-là, on va parler un peu de quelque chose qui s'est lancé, notamment suite à l'appel de nombreux présidentes et présidents d'universités publiques sur leur situation difficile. Où du coup, Philippe Baptiste, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, je ne savais pas qu'il y avait espace dedans, mais bon, visiblement, ça fait partie de l'intitulé. Et Amélie Montchalin, du coup, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics. Ils ont annoncé du coup organiser en ce premier semestre, on va dire, enfin trimestre 2026, les assises du financement des universités. Donc ils ont remis le 8 janvier leur lettre de mission à Jérôme Fournel et Gilles Roussel du coup, et qui vont organiser un peu tout ça, et qui vont c'est un rassemblement qui représente différentes universités, des associations étudiantes et aussi du coup l'État. En quoi consistent ces assises du financement des universités, et à quoi est-ce qu'elles essaient de répondre justement?
Alors, elle essaie de répondre à la structure globale du financement des universités qui est devenue très complexe, très illisible. Et donc, comme on en a parlé en première partie d'interview, à toutes ces enveloppes différentes, les conditions différentes, pour essayer d'y voir un peu plus clair, trouver une réponse, une solution, avec un point de vigilance qui a directement été annoncé par l'État sur qu'il fallait garder en tête sa trajectoire de redressement budgétaire. Et donc, certaines mesures à garder aussi sur les perspectives qui pourront en sortir, mais voilà, le but c'est d'organiser des temps d'échange et de remettre tout le monde, tous les actrices de l'université autour de la table pour essayer d'identifier des solutions et au moins une feuille de route, des décisions politiques à terme qui permettront de trouver des solutions à ce problème.
Et du coup, concrètement, ces assises, elles vont rassembler du coup des représentants des universités, mais aussi des représentants étudiants. Donc toi tu n'y seras pas, c'est ce que tu m'as dit, mais du coup il y aura l'association, je pense, nationale en tout cas des étudiants qui y sera aussi pour débattre, et l'État. Donc ça sera un peu comme une espèce de grande convention, des grandes assises où tout le monde va débattre en tout cas au niveau de leur priorité, etc. C'est un peu ça l'idée.
C'est tout à fait l'idée. Alors oui, au niveau étudiant associatif, ce sera la FAGE, qui est la première organisation étudiante de France et qui représente 2000 associations étudiantes, 66 fédérations comme la JEP, un peu partout sur le territoire, qui sera là et qui portera des revendications sur le budget et le financement de l'université qu'on a tous voté ensemble pour justement essayer d'aboutir à une solution qui serait pérenne pour les établissements et juste pour avoir de bonnes conditions d'études pour les jeunes.
D'accord. Et donc je me permets de citer un peu le lancement des assises et les textes qui ont été publiés officiellement pour annoncer ce lancement de ces assises du financement des universités. Donc Philippe Baptiste, le ministre dont j'ai parlé, ministre de l'Enseignement supérieur, a parlé de renforcer durablement la confiance entre l'État et les universités et éclairer des choix responsables compatibles avec nos ambitions académiques comme avec nos engagements en matière de finances publiques. Donc on a parlé un petit peu, ce communiqué, il y a beaucoup de jargon, on va dire, dedans pour essayer d'arrondir les angles, parce qu'on sent qu'il y a quand même une très grande tension à travers ça. Qu'est-ce que vous, en tout cas dans les assos étudiantes que vous représentez, qu'est-ce que vous attendez de ces assises-là? Qu'est-ce que vous espérez obtenir en tout cas? Parce qu'on sent très bien qu'il y a un rapport de force qui se crée entre les universités, les assos étudiantes et l'État. Qu'est-ce que vous attendez du coup de ces assises-là?
Alors nous, on attend avant tout qu'on puisse retrouver un constat simple qui devrait être celui que l'université doit être financée de façon suffisante pour couvrir ses besoins de fonctionnement. Et donc, il y a plein de revendications qui peuvent s'échelonner sur ça. La première, c'est par exemple la grosse enveloppe budgétaire. Actuellement, il n'y a même plus de calcul, de critères simples qui permettent de donner exactement un bon montant à chaque université. En fait, la méthode de calcul des critères, elle a été abandonnée il y a quelques années. Et donc, juste remettre des critères simples, lisibles, déterminés aussi par les conseils nationaux au siège des étudiants pour qu'on puisse délimiter des critères sur, par exemple, le nombre d'étudiants, les filières qui sont présentées, ça nous paraît essentiel. Ensuite, par rapport à tous les comptes, les appels à projets, la subvention, la fameuse subvention en charge de service public, le but, c'est aussi de retrouver une unique contractualisation qui puisse être débattue, co-construite avec des élus étudiants, les conseils d'administration aussi. Voilà, nous, on veut avant tout remettre une bonne méthode aussi sur la table, une méthode moins compétitive entre les universités et surtout un financement qui permettra simplement, et c'est un minimum, on pense, de financer à la hauteur suffisante des besoins en fonctionnement de chaque université en France.
Mais c'est quand même... excuse-moi, mais c'est quand même assez incroyable de se rendre compte qu'il y a plus, qu'ils ont abandonné un peu une sélection de critères spécifiques pour essayer de formaliser un peu tout ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement complexe. Comment est-ce que tu l'expliques, du coup, que l'État a un peu abandonné ces espèces de critères-là pour essayer de rendre plus lisible le fonctionnement du financement des universités ?
Alors, en fait, il existe toujours. En fait, il y avait une méthode de calcul qui a été un peu abandonnée, et depuis quelques années, on a un réajustement de cette enveloppe par arbitrage, mais qui est plus aussi méthodique et scientifique qu'à une certaine époque. Donc le but, c'est justement de retrouver ça avec des critères qui doivent être revus.
D'accord. Et est-ce que vous, en tant que représentant un peu étudiant, vous dressez le même constat que les universités ? Clairement, c'est qu'il y a des gros déficits économiques. Vous dressez le même constat que l'État se désengage du financement un peu de ces universités-là. Est-ce que les représentants des universités et les représentants étudiants sont un peu sur la même ligne par rapport à ce rapport de force ? Ou alors est-ce qu'il y a des divergences sur la manière de gérer certaines choses ?
Alors ça dépend vraiment des mouvements étudiants. On peut trouver vraiment par exemple des syndicats qui vont s'opposer plutôt aux universités qu'à l'État. Nous, notre choix, en tout cas dans le monde associatif, c'est considéré comme les universités qui ont un problème de financement qui est structurel et national. Et donc il y a eu par exemple un appel à la manifestation assez historique l'année dernière de France Université qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme. On s'est associé à eux et le but, ouais, c'est de pousser avec eux pour un financement juste. Et nous, en tant qu'association étudiante, un des gros leviers qu'on signale aussi, c'est que le recours au financement privé n'est pas une solution et qu'il a des conséquences graves qu'on essaie de limiter.
Dans ces assises, vous allez du coup discuter de toutes ces questions-là. Comment est-ce que tu sens la position de l'État vis-à-vis de ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle volonté d'ouverture au dialogue ? Est-ce que tu sens qu'il y a déjà des leviers possibles sur lesquels argumenter ? Ou est-ce que tu sens qu'il y a déjà un blocage qui commence à se mettre en place ?
Je pense qu'on peut que saluer le fait qu'il y ait des dialogues et des échanges qui s'ouvrent entre différents actrices. Évidemment, le fait que, même sur la page internet, c'est la première chose qui est signalée, qu'il y a une trajectoire de redressement budgétaire, ça pose un frein d'emblée au fait qu'on puisse aboutir à une solution qui satisferait l'ensemble de nos besoins réels dans l'université. Et on ne parle pas de mesures irréalistes, on parle de choses qui sont juste nécessaires. Donc voilà, on peut que saluer que l'État et le ministère aient ouvert la voie à cet échange. Par contre, on doit faire attention à ce que ce soit pas qu'un échange et qu'on puisse y traduire des actions concrètes pour le bien de l'université.
Oui, et puis on connaît aussi les initiatives un peu de l'État pour essayer de lancer ces grandes discussions qui finalement, au final, ne rentrent assez peu en compte dans les décisions stratégiques de l'État pour faire ça. Est-ce que tu as un peu une petite crainte que finalement ça n'aboutisse pas forcément à grand-chose, ou est-ce que tu penses que ces décisions vont être un peu fructueuses ?
Ça, c'est vraiment incertain. On a toujours peur parce que c'est déjà arrivé. Et tu l'as dit qu'il y ait plein de conventions qui finalement n'aboutissent à aucune décision.
La convention citoyenne pour le climat, par exemple, qui en est un exemple.
Voilà. Et donc, évidemment, nous, on le souhaite. En tout cas, nous, on y va et on s'y rendra parce que c'est toujours une bonne occasion de porter des positions pour les jeunes devant tous les actrices. Si on peut leur faire prendre des engagements forts, on le fera. Et on fera attention à ce qu'ils puissent s'y tenir.
Et du coup, dans ces assises-là, de ce que j'ai pu lire, des différents communiqués, donc on sent qu'il y a vraiment deux pôles un peu qui s'affrontent sur les différentes visions qu'on a de l'université publique. Il y a un peu deux visions qui sont un peu en concurrence par rapport à ça, sans utiliser de mauvais jeu de mots, entre d'un côté ce que je sens comme étant un peu une volonté de libéralisation un peu de l'université publique, de professionnalisation des formations, avec des critères, comme tu le disais tout à l'heure, comment juger de l'efficacité d'une université, c'est à travers des critères d'emploi des étudiantes et des étudiants après, un peu un désengagement de la recherche. Et de l'autre côté, donc avec cette vision qu'on va dire un peu plus entrepreneuriale de l'université publique, et d'un autre côté, une vision qui réaffirme le côté universaliste de l'université, l'importance de la recherche sans forcément générer de profits chiffrables directement derrière. Est-ce que tu souscris à cette opposition-là ? Est-ce que du coup, tu sens que cette opposition-là, elle est réelle et elle existe ?
Elle existe vraiment. On pourrait même pousser un peu plus loin la première vision entrepreneuriale en rappelant qu'il y a une irruption de plus en plus flagrante des partenaires privés et des financements privés dans les universités, au point où il y a certains doctorats dans lesquels les entreprises qui financent par exemple la chaire de doctorat ont une place dans le jury de sélection des doctorants. Donc voilà, cette vision entrepreneuriale, elle va à un point où, par exemple, les entreprises qui posent des enjeux de société comme par exemple Total peuvent aujourd'hui agir concrètement sur des choix et sur des sélections académiques pour des doctorants. Donc ouais, il y a d'un côté vraiment ce gros bloc et des fois ces choix contraints aussi par l'université hein, qui fassent un sous-financement massif de l'enseignement supérieur par l'État et obligé d'essayer de se tourner vers des acteurs privés plus ou moins éthiques aussi selon les critères que délimitent les universités. Et de l'autre côté, ouais, il y a le monde aussi que nous on veut défendre en tant qu'organisation fondative étudiante sur une université qui est avant tout un lieu d'émancipation d'enseignement, de formation, un passage dans lequel on doit pouvoir s'épanouir, s'émanciper démocratiquement et intellectuellement. Et ça, donc, c'est
super. Ouais, c'est ça, entre les visions peut-être un peu plus managériales et les visions beaucoup plus d'un idéal démocratique, du coup, c'est ces deux visions-là qui ont peut-être se clashé, on va dire, pendant ces assises-là, avec deux visions totalement parfois différentes de l'enseignement public. C'est ça que tu essayes un peu de nous dire, quoi.
Totalement, parce que ça s'incarnera sur un budget. Finalement, tout budget a une orientation politique et la construction d'un budget reflète d'un acte d'intention et de la direction qu'on veut donner. Donc, forcément, si on aboutit à des décisions qui iront vers des indicateurs de performance, on rentrera plutôt dans la logique entrepreneuriale, là où si on obtient à nouveau une contractualisation pour le financement total d'université, on arrive dans une logique qui est celle d'une université comme elle devrait l'être.
Ben c'est un débat essentiel qui se pose en tout cas aujourd'hui. Et pour finir, du coup, une dernière petite question, il nous reste une petite minute, sur votre actualité du coup à l'AGEP, donc l'Association Générale des Étudiants de Paris. Donc vous allez publier bientôt un guide des aides sociales pour les étudiantes et les étudiants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Tout à fait. Ce vendredi 16 janvier, à 19h, on sortira un guide des aides sociales qui regroupera plus d'une cinquantaine d'aides à disposition de l'ensemble des étudiants de Paris sur des questions de logement, d'alimentation, de transport, de santé. Le but, c'est de rendre beaucoup plus lisible l'ensemble des dispositifs qui existent à Paris. Et donc, ce guide sera évidemment gratuit, disponible d'abord en ligne, puis on espère pouvoir l'imprimer pour le mettre à disposition au plus grand nombre. Et il y aura aussi plein de contacts dans ce guide pour permettre à tout étudiant de pouvoir contacter ses élus, les administrations si besoin.
Eh ben, merci beaucoup Simon Elien. Rendez-vous pour tous les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent sur le site du coup de l'AGEP pour découvrir un peu ce guide des aides sociales. Merci énormément d'avoir été avec nous et nous avoir éclairé sur ce sujet.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode d'Univox avec Simon Elien, président de l'Association Générale des Étudiants de Paris, ou AGEP. L'interview a été menée par Vladimir Pouradier du TEI et réalisée par David Allaire. Animation et montage, Philippe Fischer. Rendez-vous la semaine prochaine à Angers pour le mois du genre, dans Univox, le magazine du monde étudiant, sur vos radios campus. Univox.